Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Ah, l'Himalaya, c'est un monde, c'est le monde des dieux, comme disent les hindous. Le monde des dieux, non seulement par la grandeur, par la magnificence de tous ces grands sommets, mais aussi par tout ce qui est resté attaché à l'Himalaya de pensées mystiques, qui ont été mises là par des sages qui, pendant des siècles, s'y sont succédés, y ont médité, y ont passé des existences presque inimaginables pour nous.
Qui de mieux que la grande exploratrice et orientaliste française Alexandra David-Nel pour ouvrir cette émission Les yeux rivés sur le toit du monde, direction le Tibet. À l'occasion du Festival du Voyage du Grand Bivouac qui s'est tenu la semaine dernière à Albertville dans les Alpes françaises, on va cheminer, en compagnie d'Alexandra et d'autres, sur les hauts plateaux tibétains à travers le temps et l'histoire. Celles d'hommes, surtout, et de femmes aussi, Alexandra en tête bien sûr, qui un jour ont cherché à explorer le Tibet, à le parcourir, afin d'en percer les secrets jusque-là très bien gardés. Terre de légendes, mystique, voire sacrée, déchirée par son histoire récente et aujourd'hui orpheline de son Dalai Lama, le Tibet a toujours suscité la fascination, l'obsession presque, chez les Occidentaux. Les lieux, isolés, peuplés de nomades, de religions bouddhistes, ont, il faut le dire, longtemps été interdits aux Européens, aux étrangers. Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur français, a dit un jour que le Tibet, c'est, je cite, « la conjonction unique d'une géographie inaccessible et d'un mystère spirituel ». Un pays qui constitue à la fois un bastion féodal et un temple mythique propice à la divinisation du relief. Les yeux rivés sur le toit du monde, c'est-il vrai, plutôt propice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau voyage au pays des neiges à 4000 mètres d'altitude en moyenne. Et pour nous accompagner cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir le français Louis-Marie Blanchard, un voyageur au long cours, féru d'histoire, auteur de nombreux livres sur le Tibet notamment. Avec sa fille Élise, il vient de publier chez Paulsen un beau livre émaillé d'images de leurs nombreux voyages au Tibet, mais surtout ponctué de récits, d'explorations aux allures d'épopées, aventureuses, incroyables parfois, incognito souvent aussi. Des récits qui nous rappellent à quel point le Tibet, je le disais, a fasciné l'Occident. Louis-Marie Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Votre livre, L'exploration du Tibet, missionnaire, espion et aventurier au pays des neiges, annonce en fait d'emblée par son titre et son sous-titre le genre de voyageur que l'on va retrouver à travers les siècles dans ces contrées lointaines, en tout cas pour nous qui sommes ici. Mais avant de voyager parmi une sélection de personnages qui peuplent cette épatante galerie d'explorateurs, deux questions préliminaires s'imposent. La première, tout d'abord, c'est pourquoi ce livre ? Aujourd'hui, à l'heure où le Tibet est une région dite « autonome » de la République populaire de Chine, après notamment l'invasion militaire lancée par Mao en 1950. Quelle est votre histoire, votre relation à ce pays des neiges ?
En fait, j'ai commencé à voyager au Tibet à un moment où il était pratiquement interdit d'y aller, dans les années 80, et au moment, juste avant le retour de Deng Xiaoping. Et c'est vrai que j'ai eu moi-même maille à partir maintes fois avec la police chinoise qui voulait à tout prix empêcher les étrangers de pénétrer sur le territoire. Mais on pouvait y aller à condition de ne pas y aller, de ne pas vouloir y aller vers Lhasa. Donc il suffisait de partir de Chengdu en Chine et de là, par la bande, de monter sur le plateau en bordure du Kham, de ce qu'on appelle la région du Kham, c'est-à-dire le Tibet oriental, le plus proche de la Chine. Et là, on pouvait relativement facilement déjouer les postes de police et arriver à pénétrer sur le plateau. Une fois qu'on était sur le plateau, on avait peu de chances de rencontrer à nouveau des patrouilles chinoises.
Et alors, vous avez fait combien de voyages, justement ?
Un nombre très important, mais ça fait 30 ans que j'ai au Tibet. Donc, souvent, j'y suis resté 6 mois d'affilée. Donc, ça représente vraiment plusieurs années de ma vie.
Et alors, deuxième question, pas des plus simples, parce qu'on va peut-être conseiller presque à l'auditeur d'ouvrir un atlas. D'ailleurs, j'ai une carte devant moi qui figure au début, en préambule de votre ouvrage, parce que c'est nécessaire. De quel Tibet on parle dans votre livre, Louis-Marie Blanchard ? Parce qu'il y en a... Il y en a plusieurs, en tout cas il y en a différentes versions. On parle d'un Tibet historique, un Tibet géographique, un Tibet ethnique ou ethnographique. On parle aussi de grand Tibet.
Oui, alors en fait, ça vient des Chinois qui ont coupé le Tibet en morceaux, puisque l'aire géographique et culturelle tibétaine, elle s'étend aujourd'hui sur plusieurs régions. La région autonome du Tibet, c'est comme ça que les Chinois l'ont appelée, qui est tout sauf autonome, hein, et qui est la région la plus prise en main par les Chinois. C'est là que se trouve la capitale, Lhasa, puis deux autres villes, Shigatsé et Gyantsé. Tout ça est bien pris en main par les Chinois. Et puis, au-delà de ça, vous avez des régions tibétaines qui ont été incorporées à des provinces chinoises, la province chinoise du Gansu au nord, dont là où est né le Dalai Lama, hein, et puis la province du Qinghai, qui est une très grande province au nord du Tibet, et puis à l'est, le Kham, qui est aussi une très grande province. L'ensemble constitue le Tibet. Et au-delà de ça, on a encore quelques petites zones tibétaines dans l'Himalaya, et puis le fameux Ladakh-Zanskar en Inde, qui sont des régions adjacentes au Tibet, mais bel et bien de culture tibétaine. Tout ça donne un ensemble immense qui a été réduit à la portion congrue en région autonome du Tibet par les Chinois.
Alors quand vous dites immense, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés.
Voilà, c'est-à-dire vraiment là, on est sur 4-5 fois la France, quoi.
Ce qui fait mesurer aussi l'influence de cette culture dans la région.
Oui, ben disons que il faut bien voir qu'aux époques anciennes, le Tibet a été un ennemi craint par tout le monde. Il a été craint par les gens d'Asie centrale, il a été craint par la Chine, puisque les Tibétains ont été jusqu'à envahir la capitale chinoise de l'époque. Et donc, en fait, le Tibet n'a cessé d'être une puissance militaire qu'à partir du moment où il est devenu bouddhiste.
Alors, ceci étant dit, partons maintenant et remontons, si vous le voulez bien, les aiguilles du temps, à une époque où le Tibet s'écrivait avec un H.
Mais père, c'est terrible! La foule, ils veulent me tuer!
Calme-toi, on ne comprend rien à ce que tu dis. Que se passe-t-il de si grave?
C'est un pèlerin indien qui vous a vu passer tout à l'heure. Il dit que vous êtes Pilling de Calcutta.
Pilling de Calcutta?
Allons bon, si cette fable stupide s'accrédite...
Mais ces Pilling de Calcutta, ce sont des anthropophages.
Mais c'est bien plus grave. C'est le nom que les Tibétains donnent aux Anglais.
Aïe, je comprends.
L'Indien est monté sur une borne, pour que tout le monde puisse l'entendre. Il a expliqué que vous étiez sûrement des espions déguisés en lama. Et la foule a commencé à hurler. À mort, à mort!
Au fond, ces Anglais n'ont que ce qu'ils méritent. Ils veulent s'installer partout. Tous les moyens leur sont bons. Ils ne réussissent qu'à se faire haïr.
C'est possible. Mais en attendant, c'est à nous que ces gens s'en prennent.
Tout à l'heure, pendant que l'Indien parlait, un lama à côté de moi a proposé de vous emmener chez le régent. Il a failli se faire assommer. Vous écartelez, vous attachez chacun à la queue de cheval. Voilà ce qu'ils veulent.
Louis-Marie Blanchard, on vient d'entendre, dans cette archivinade 1959, tirée de l'émission de télévision française Le Journal des Voyages, une scénette qui reconstitue, romance aussi peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez, la vie du père Huc et ses comparses de voyage, une fois qu'ils sont parvenus en 1846, après 18 mois de voyage, à Lhasa, la cité sacrée, interdite aussi. On perçoit bien d'ailleurs dans cet extrait le danger d'être un missionnaire, un étranger là-bas au XIXe siècle. Comment ce père Huc, Évariste Huc, lazariste de Macao, se retrouve-t-il à Lhasa?
Alors, écoutez, il a d'abord été nommé à Macao. Et puis donc de Macao, on l'a nommé dans la région de la Nord-Chine, donc pas très loin de Pékin. Et puis avec son supérieur Gabet, ça faisait une équipe qui fonctionnait apparemment bien. Et tous les deux ont décidé d'aller évangéliser les zones inconnues de l'ouest de la Chine. Et ils sont partis comme ça, en fait, au départ, à travers la Mongolie intérieure. Et puis ils sont arrivés à la frontière nord du Tibet, dans un très grand monastère qui s'appelle Kumbum, qui veut dire les mille images. On va peut-être dire pourquoi. Parce que c'est l'endroit où serait né Tsongkhapa, qui est vraiment le grand patron des bouddhistes tibétains. Et là, on dit qu'à l'endroit où il est né, dans le monastère, il y a un arbre qui a poussé, et que sur toutes les feuilles de cet arbre, il y avait des écritures sacrées tibétaines. Et donc, Huc, qui disait « c'est pas possible, c'est un objet d'idolâtrie, c'est quelque chose du démon », a voulu vérifier ça. Et là, il a pris quand même une grande claque, parce qu'il a vérifié, il le dit dans son récit, qui est un extraordinaire récit, qui s'appelle « Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Tibet ». Et dans ce récit, il dit « mais on a, avec mon copain, on a par tous les moyens, essayer de voir s'il y avait une supercherie, si les moines bricolaient les feuilles et tout. On n'a jamais pu détecter la moindre supercherie. Et il y a effectivement des signes tibétains sur les feuilles. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça.
Alors pour revenir à son équipage, à cette épopée qu'il a fait effectivement en Tartarie, dans ces terres méconnues de Haute-Asie, ils se sont lancés, vous l'avez dit, avec le père Gabet en 1844. Et leur petite caravane ressemble un peu, moi elle m'a fait penser à ça, un peu à Don Quichotte en Tartarie.
Ben oui, d'abord ils étaient déguisés en mandarins pour ne pas être éjectés immédiatement, hein, voire tués. Hein. Et donc ils se dissimulaient en mandarin chinois, c'était la seule façon de passer au travers les mailles du filet. Arrivés à Kumbum, ben, ils se sont intéressés, donc c'est un immense monastère qui comptait à l'époque plusieurs milliers de moines. C'est une grande université en fait. Quand on dit monastère, faut bien différencier les endroits où les moines ne font que prier et puis les grandes universités monastiques où les moines font des études de haut niveau, y compris par exemple des études de médecine ou d'astrologie, etc. Et donc lui, il s'intéressait un petit peu à ça, et grâce à lui, on a, dans les années 1840, le récit de la manière dont se passaient dans le vieux Tibet les études des moines, et vraiment, il a fait un effort net pour s'intéresser à ce qu'il considérait comme de l'idolâtrie pure et dure. Il faut bien voir que c'était un chrétien convaincu, et même s'il n'a jamais converti personne, je pense, il pensait que les autres religions étaient largement inférieures à la sienne. Malgré ça, il a fait l'effort de s'y intéresser.
Sachant qu'il voyage donc avec à dos de chameaux, le père Gabet à cheval, ils sont avec un lama vagabond qu'ils ont plus ou moins converti, donc peut-être que ça dément ce que vous venez de dire, il y en a peut-être un qui a été converti, qui lui est sur un mulet. Et effectivement, ils croisent, ils attendent même.
Une caravane.
Une caravane, et pas n'importe laquelle.
Ma caravane qui fait le voyage pour le Dalaï Lama. Il faut voir qu'à l'époque, c'était assez fréquent ce genre de caravane. Hein. Le Dalaï Lama avait des accords avec un certain nombre de grands pontes politiques. Et donc, il y avait un système d'échange qui faisait que le Tibet n'était pas tout à fait isolé. Et on envoyait comme ça des caravanes entre le Ladakh, on pourra en reparler, et Lhasa, donc depuis l'Inde jusqu'à Lhasa. On envoyait des caravanes vers le nord, on envoyait des caravanes vers la Chine. Et donc, ça, c'était un système qui était assez fréquent. On appelait ça les caravanes du Dalaï Lama parce que c'était des présents offert par le Dalaï Lama en échange d'autres présents équivalents. En fait, c'était un système commercial sous forme de troc par caravane interposée.
Alors ces caravanes, d'une certaine manière, les protègent. Et il y a, vous citez dans votre livre, cette immense caravane de l'ambassadeur tibétain composée de 15 000 yaks, 1 200 chameaux et autant de chevaux, 2 000 hommes armés de sabres et de fusils et 300 soldats à pied.
Et oui, parce que traverser le Tibet, ça posait un certain nombre de problèmes. À l'époque, le Tibet, c'était une terre de brigands. Moi-même, dans les années 1980-90, j'ai souvent été avec des kampas qui étaient des brigands et qui ne s'en cachaient pas. Le brigandage, c'est une sorte de qualité pour un homme un peu viril au Tibet. Bien sûr, on ne brigande jamais sur sa communauté, mais dès l'instant qu'on a dépassé les limites de sa communauté ou l'ère monastique de sa communauté, on peut brigander. Ça, c'est pas vraiment un délit.
Donc l'étranger est toujours brigandé.
Voilà. Donc toute brebis est bonne à tondre. Donc la seule, évidemment, comme ces caravanes transportaient des fortunes immenses à base de thé, de soie, d'instruments de musique, d'instruments rituels, etc., des choses de valeur, des brigands essayaient de s'y attaquer, y compris si c'était la caravane du Dalaï Lama. Il ne faut pas non plus s'imaginer que les Tibétains avaient une révérence pour le Dalaï Lama au point qu'ils ne se seraient pas attaqués à ses biens.
Alors surtout qu'il faut alors peut-être faire la part des choses entre la vérité, la fiction, la frustration aussi peut-être d'un missionnaire qui veut évangéliser et qui se retrouve dans un peuple très dévot. Mais en tout cas, on retrouve dans les écrits de Huc une description d'un Tibet qui, évidemment, va complètement à contre-courant de l'image actuelle. On n'est pas du tout à la même époque, évidemment, mais on découvre avec lui un Tibet tel qu'il le décrit, comme étant cruel, violent, évidemment. On a parlé des brigandages, avec des lamas usuriers, des moines aussi pas très pacifiques.
C'est une société médiévale, le Tibet. Ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Moi, je prends toujours l'exemple de la société cistercienne du XIe, XIIe siècle en Europe. Donc, avec des moines qui dominent tout, des moines qui souvent sont dans les ordres sans avoir vraiment eu la vocation, des moinillons qui rentrent à 5 ou 7 ans dans les monastères, on ne leur a pas demandé leur avis. Donc, il ne faut pas s'imaginer que tout se passe comme si c'était des saints hommes dévoués à Dieu et sans aucune préoccupation humaine. Deuxièmement, il ne faut pas non plus se tromper sur la religion tibétaine. La plupart des sectes, entre guillemets, tibétaines, le mariage est permis. Tant que vous n'avez pas prononcé des vœux complets, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez aussi quitter la vie monastique, etc. Donc c'est un mélange entre une omniprésence de la religion, mais en même temps plein de défauts liés au fait que la religion est liée à la vie civile du pays. Il n'y a pas, c'est une osmose entre vie civile et vie religieuse. En Europe, on est trop habitué à ce que les religieux soient relativement, surtout les moines, séparés de la vie civile. Là-bas, ils sont en communauté avec la vie civile. Les moines vont dans les campements, vont dans les villages, et les gens vont dans les monastères, ont une maison au monastère. Il y a des échanges continuels entre les religieux et les civils.
Alors, on l'a entendu dans l'extrait diffusé en préambule, ce voyage est à haut risque. Les missionnaires risquent leur vie sur
toujours,
place.
Mais pas que les missionnaires. Tout voyageur qui s'aventure au Tibet risque sa vie jusqu'à une époque très récente.
Et le père Huc, avec Joseph Gabet, son acolyte, vont finalement être expulsés vers Macao depuis la Chine. On se pose la question quand même, pourquoi aller là-bas ? Pourquoi aller dans des terres si pieuses pour évangéliser ?
Moi, je pense que...
Pourquoi risquer sa vie ? Parce qu'il y en a eu plein des missionnaires.
Moi, l'idée que je m'en fais, c'est que Huc... Bien sûr, il était missionnaire. Bien sûr, je pense qu'il était profondément chrétien. Mais je pense que c'était avant tout un aventurier.
Ce qu'il sent d'ailleurs dans ses écrits.
Et c'est
il a un regard presque plus d'ethnographe.
Extraordinaire, avec un humour que j'ai rencontré dans aucun autre récit. Et cet humour, il reste valable aujourd'hui. Ce n'est pas un humour désuet. On rigole à chaque page du récit d'Évariste Huc quand il nous raconte ses aventures. Je pense qu'il avait un esprit aventureux et que la religion... C'était pour lui quelque chose de personnel, mais qu'il n'a jamais vraiment eu, le moine du monde, l'âme d'un missionnaire.
Alors, en plus de 300 ans, aucun missionnaire n'a pu s'y établir durablement au Tibet. Ce qui fait dire, d'ailleurs, aux très anciennes missions étrangères de Paris, fondées en 1660, un organisme qui s'attache à évangéliser à travers le monde et particulièrement en Asie, que le Tibet, je cite, c'est « le pays de la mission impossible par excellence ». Tiens, Mission Impossible, ça me fait penser à une autre histoire d'exploration du Tibet, une histoire d'espion, cette fois.
En septembre 1943, je fus convoqué à Kalgan et je m'y rendis en espérant que c'était pour voir approuver le projet que j'avais proposé pour la première fois plus d'un an auparavant. Cette fois-ci, je ne fus pas déçu. Je vis M. Yasuki, le supérieur de M. Tsugiki. Il me remit 10 000 yens pour mes préparatifs, m'accorda un an de congé et me plaça sur la liste du personnel de l'ambassade. Je savais pertinemment qu'un an ne suffirait pas pour un tel voyage, mais je n'allais pas remettre tout le projet en question en demandant un détachement plus long. Je voulais d'abord partir. Je fis immédiatement chercher les Danzan et dès leur arrivée, nous nous mîmes à acheter des chameaux et à rassembler du matériel. Nous nous équipâmes sérieusement, comme tous les autres pèlerins, avec une tente, une pelle, deux grosses bouilloires mongoles en cuivre pour conserver l'eau, une bouillotte, des allumettes, une hache, de la pierre à briquet. Nous dûmes nous passer des cartes, des boussoles et de l'appareil photo qui aurait pu s'avérer dangereux en cas de fouille. Les talismans et les sutras tibétains étaient plus adaptés. Finalement, notre déguisement fut complet lorsque les dernières touches eurent été apportées à mon apparence. Alors que mes cheveux commençaient à repousser, je les fis raser à nouveau. Je revêtis la soutane de voyage des moines avec dans ses plis une boîte porte-bonheur contenant une image en argent du Bouddha et complétais le tout avec un chapelet. Maintenant, je m'appelais Dawa Sangpo et mon but était Drepung, le plus grand monastère bouddhiste du monde aux abords de Lhasa.
Idzao Kimura, c'est le nom de cet explorateur lancé vers la Mongolie et le Tibet que l'on retrouve aussi, Louis-Marie Blanchard, dans votre livre. Là, c'est un extrait de son récit « Aventure d'un espion japonais au Tibet » que l'on vient d'entendre. Un récit qui renvoie à une image, à une réalité aussi d'un Tibet aux allures de nid d'espion. C'était vraiment le cas ?
Mais oui, ça a été un nid d'espion parce que c'était un pays qui était convoité par de nombreuses puissances. Au sud, l'Angleterre était en Inde.
Oui, surtout, c'est même bien avant l'arrivée de Kimura, parce que lui est arrivé dans les années 1940.
Ah oui, lui, c'est un siècle après Hux, c'est dans les années 19, juste avant la Deuxième Guerre mondiale.
Et bien avant, déjà, 1940. Au 19e siècle, c'était effectivement un territoire, vous venez de le dire, très convoité.
Ben oui, parce que donc, les Anglais avaient l'intention de, au moins de nouer des accords commerciaux, voire d'envahir le Tibet. Au nord, les Russes ne voulaient pas que les Anglais s'avancent plus. Il y avait déjà eu une confrontation quasi entre les deux armées au niveau des Pamirs en Asie centrale, puisque les Russes n'avaient eu de cesse d'envahir les Khanats d'Asie centrale peuplés de populations turcophones. Et les Anglais voulaient que ça cesse, ils ne voulaient pas qu'ils descendent plus bas, les Russes. Les Russes ont pensé envahir le Xinjiang au nord du Tibet, puis après le Tibet. Les Japonais avaient pris pied en Mandchourie et comptaient bien envahir une bonne partie de la Chine. Enfin, tout le monde se jetait sur la bête.
Ce qu'on appelait le grand jeu, en tout cas, pour parler de la rivalité entre les Russes et les Britanniques.
Les Britanniques, et puis les Japonais, et puis les Américains. Et tout le monde y allait de son petit couplet en envoyant des espions pour avoir des données sur les puissances en jeu, le terrain, comment on pouvait traverser le Tibet, les rivières qu'il fallait franchir, la manière dont on pouvait se ravitailler, quels dangers il fallait affronter, les températures, etc. Et c'est comme ça que les Anglais ont été les premiers à faire ça dans les grandes largeurs avec l'Indian Survey, à former des Hindous qui passaient plus facilement que des Anglais, évidemment.
Ils envoyaient des Indiens, c'est ça,
ils
les
envoyaient des Indiens, des pandits indiens, et ils ont réussi comme ça à cartographier et avoir des données fiables sur l'ensemble du Tibet.
Alors avec Isao, on est sur fond aussi de guerre sino-japonaise. On a dit on est en 1940, donc la seconde qui a duré de 1937 à 1945. Les Japonais, eux, après avoir envahi, vous en avez parlé, la Mandchourie, tentaient en fait de faire main basse sur l'ensemble de la Chine, profitant de la faiblesse de ce pays qui lui-même était déchiré en interne par une guerre civile.
Voilà, c'est-à-dire que en fait, la Chine se débattait donc dans une guerre civile. Le Tibet, de son côté, comptait sur son isolement pour échapper à la guerre et échapper aux puissances coloniales, puisque entre le Tibet et l'Inde, il y a quand même l'Himalaya à traverser. Pour les Anglais, c'était pas simple d'envoyer une armée, surtout qu'ils avaient déjà eu de sérieux problèmes en Asie centrale avec les guerres d'Afghanistan et tout. Donc ils se disaient, on va encore perdre des milliers d'hommes pour pas grand-chose comme en Afghanistan. Les Russes étaient déjà extrêmement loin de leur base parce que se projeter déjà en Asie centrale pour eux, c'était dur. Mais aller jusqu'au Tibet avec des moyens que n'avaient pas les Anglais. Donc, et les Japonais, ils étaient très très loin, ils étaient en Mandchourie. Mais je pense qu'ils comptaient, par l'intermédiaire de la Mongolie, pouvoir prendre pied beaucoup plus facilement au Tibet. Parce que je rappelle que la Mongolie et le Tibet, c'était des frères jumeaux. Il n'y a pas de Tibet sans Mongolie, il n'y a pas de Mongolie sans Tibet. Et c'est vrai que c'était une très belle carte dans les mains des Japonais d'envoyer d'abord des espions sur la Mongolie pour après essayer de les envoyer sur le Tibet et le Xinjiang.
Sachant que Isao Kimura lui-même parlait le mongol, il a traversé la Mongolie, il a finalement décidé d'aller jusqu'à Lhasa, donc déguisé en moine. Et finalement, lui, il va abandonner à un moment toute idée de retour. C'est ce qu'il raconte dans son récit, qu'il finit comme un pauvre pèlerin mongol. Il va même retourner sa veste aussi.
Oui, il va à un moment travailler pour les Anglais comme espion. Donc je crois qu'il va aller au Sikkim. Il fait plusieurs allers-retours. Bon, c'est pas toujours très clair. Je pense qu'il dit des choses. Il y a des choses qu'il dit pas également. Toujours est-il qu'il a bel et bien travaillé pour les Anglais, qu'il leur a donné des renseignements. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu rester là-bas. Mais la situation politique était telle à l'époque. Il s'est aussi aperçu très vite que le Japon avait perdu la guerre.
Oui, on est en pleine aussi Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est-à-dire que le Japon va capituler. Voilà. Il l'apprend d'ailleurs lui-même depuis le Tibet.
Voilà. Et donc là, il ne sait plus trop ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit rester au Tibet? Est-ce qu'il doit repartir chez lui? Effectivement, il va errer pendant quelques années en faisant même du petit commerce, etc. Donc l'espion se transforme en petit commerçant.
Et finalement, il va rentrer chez lui, ou en tout cas se rendre d'abord en Inde et se livrer aux autorités de Calcutta. Et effectivement, comme on a dit, à ce moment-là, il est perdu. Et ça, c'est intéressant de voir aussi, de par ce maillage, cette espèce d'espionnage international, à quel point il y avait comme ça des hommes en errance totale, qui avaient adhéré aussi à la culture tibétaine, ici mongole peut-être plus pour Isao Kimura, Et ils n'ont plus de patrie.
C'est tout le problème de l'espion, c'est qu'à un moment, l'espion, quand il joue pour les uns, qu'il joue pour les autres, tout le monde se dit, mais attendez, il n'a pas de conviction, il va retourner sa veste à n'importe quel moment. Donc il devient dangereux pour les Anglais, il devient dangereux pour les Japonais, il devient dangereux pour les Tibétains, et du coup, il devient pratiquement un apatride.
C'était Yongchen Lamo, la chanteuse tibétaine qui vit aujourd'hui en exil à New York sur RFI. On est toujours en compagnie de Louis-Marie Blanchard, voyageur au long cours qui, comme beaucoup, un jour a répondu à l'appel du Tibet. Depuis plus de 30 ans, il se passionne pour ses hauts plateaux et ses gens là-bas et livre depuis 20 ans au moins de nombreux livres sur la région. Cette année, avec sa fille Élise, il publie aux éditions Paulsen un livre écrit à quatre mains sur les explorateurs au Pays des Neiges. Des explorateurs tour à tour missionnaires, espions, on l'a vu, mais aussi scientifiques. Sven Hedin était l'un des plus célèbres, sinon le plus célèbre, même si aujourd'hui on l'a un petit peu oublié. Qui était Louis-Marie Blanchard, ce Sven Hedin ?
Alors, Sven Hedin, c'était un Suédois et un scientifique, vraiment. Il a eu une formation de géographe très solide. C'était un homme qui avait un cerveau en or et des mains en or et une résistance en acier.
Oui, on le disait très robuste. Alors, il était topographe, géographe, photographe.
Il savait tout faire.
Et il s'est lancé à la fin du 19e siècle,
voilà.
Vers
l'Asie. Grande époque des expéditions scientifiques autour du monde. Le monde reste encore à découvrir. On envoie des scientifiques partout, et notamment sur le plateau du Tibet, parce que c'est quelque chose qui est encore très peu connu. Et donc, lui, très vite, il va être capable de monter des grosses expéditions. Et comme toutes ces grandes expéditions scientifiques, la seule façon de pénétrer au Tibet, c'est de pénétrer par le nord. Ce qui pose des problèmes absolument énormes. C'est-à-dire qu'ils doivent partir du désert du Taklamakan à une altitude proche du zéro, franchir une chaîne de montagnes qu'on appelle le troisième pôle, les Kunlun, où je suis allé moi-même, toute cette zone du nord-ouest du Tibet. C'est vraiment des montagnes très difficiles pour crapahuter là-dedans, avec une chaîne de montagnes qui est avec des sommets de plus de 6000 mètres. Et il y a des gorges qui permettent de passer, mais malgré tout, vous aboutissez de toute façon sur un plateau qui fait 5100 mètres. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques jours, vous passez de l'altitude 0 à l'altitude 5100. Et là, évidemment, c'est une catastrophe pour les hommes qui ne sont pas habitués à cette altitude-là et qui tombent tous malades, y compris les explorateurs. C'est une catastrophe pour les chameaux qui viennent de l'altitude 0 et qui s'encaissent 5000 mètres sans pouvoir y faire face. En plus, les températures là-haut à 5000 mètres, ils gèlent jour et nuit et on n'a aucune bonne protection contre le vent. Et donc, malgré ça, ils choisissent cette façon de pénétrer au Tibet parce qu'ailleurs, ils vont être arrêtés immédiatement.
Oui, parce qu'on a surtout parlé des dangers, on va dire, diplomatiques, du brigandage aussi, les dangers humains, si je puis dire. Mais il y a effectivement les dangers naturels qui prédominent.
Le danger naturel, il est surtout important à partir du nord du Tibet, dans ce qu'on appelle le plateau du Changtang, derrière les Kunlun, où là, vraiment, on est à de très hautes altitudes. C'est un pays vide. C'est-à-dire que vous pouvez circuler là-dedans pendant 15 jours, un mois, sans voir un seul nomade. Quelquefois, vous rencontrez des chasseurs d'antilopes ou de yaks sauvages. Et donc, les expéditions, que ce soit l'expédition française de Bonvalot, que ce soit l'expédition de Przelski, le russe, que ce soit l'expédition de Svenedin, le suédois, ils sont dans les mêmes problématiques. Comment acheminer une caravane depuis l'altitude 0 jusqu'à l'altitude 5000 mètres sans qu'il y ait trop de casse? Et de la casse, il y en a toujours, y compris des caravaniers. Jour après jour, on laisse des chameaux crever et on enterre les morts dans la terre glacée sous quelques pierres.
Alors à Svenedin, on doit la production des premières cartes détaillées du Pamir, du Taklamakan, du Tibet et de l'ancienne route de la soie. Il a également livré de nombreux récits de ses voyages, parmi lesquels dans les sables du Taklamakan, parce que ce désert, en fait, le captivait. Parce qu'il n'était pas animé seulement, même si c'était vraiment un scientifique, il n'était pas seulement animé par une volonté rationnelle de science. On sentait que les légendes, notamment qui entouraient ce désert, le fascinaient, l'appelaient presque.
Il avait toutes les qualités. Il avait toutes les qualités, c'est-à-dire à la fois un esprit scientifique, mais aussi un esprit poétique. Il dessinait formidablement bien, il a fait des milliers d'esquisses, de dessins, d'aquarelles, etc.
Il y a des reproductions d'ailleurs dans votre livre.
Voilà. Et donc vraiment des très 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 belles choses sur le Tibet de l'époque. Et un excellent géographe, capable de dresser des cartes. Et c'est facile à dire quand on est dans un bureau bien chauffé, mais quand vous êtes sous la tente ou sous la yourte, il avait une petite yourte pour se retirer le soir, quand vous avez crapahuté toute la journée pendant 8, 10 heures, 12 heures, et que le soir, il faut écrire le compte-rendu de la journée, qu'il faut dresser la carte des endroits que vous avez mesurés avec vos appareils scientifiques, mesurer les altitudes, il allait même sonder avec un petit canot démontable la profondeur des lacs, mais il faut avoir une résistance absolument hors du commun. Les Anglais ont dit « on n'a jamais vu un type d'une telle puissance de feu ».
Alors il y a un passage dans votre livre où il raconte, ce sont ses mots, au début du XXe siècle, parce qu'il est revenu, parce qu'il a fait plusieurs expéditions en Asie, il raconte ce besoin de repartir et la sensation d'étouffement dans le cadre étroit, dit-il, de la vie civilisée. Et on comprend aussi que c'était ça ce qu'allaient chercher les explorateurs. C'était évidemment la grandeur, l'inconnu des lieux, la force aussi des cultures tibétaines et des rituels, mais c'était aussi l'aventure avec un grand A.
C'était de l'aventure avec un grand A, parce qu'aujourd'hui, quand on fait sa valise et qu'on part pour un mois en Thaïlande ou en Birmanie, on a l'impression vraiment d'être un aventurier. Voilà, chacun son aventure. À l'époque, une expédition, ça durait 3 ans. Et on comprend mieux qu'au bout de 3 ans de cette vie extrêmement rude au niveau au contact des nomades et dans des terres où on voyait très peu d'habitants, quand ils revenaient à Stockholm, à Paris ou à Moscou, eh bien, ils s'y trouvaient un petit peu à l'étroit. Et tous l'ont dit, Przelski l'a dit, Bonvalot l'a dit, quand on rentre au pays, on a le spleen pendant des mois de ces grandes étendues où on avait une liberté absolue.
Surtout que lui n'est jamais arrivé à Lhasa.
Il n'est jamais arrivé à Lhasa, mais il n'est pas le seul. Przelski n'est jamais arrivé à Lhasa.
Przelski, c'était un officier.
Toutes les grandes expéditions scientifiques se sont loupées. Les seuls qui sont parvenus à Lhasa, ce sont des gens qui passaient presque incognito, qui se mêlaient aux Tibétains. Edine a essayé de le faire. Il s'est déguisé en berger tibétain et il a cru pouvoir passer à travers les mailles du filet, mais je pense qu'il a été dénoncé. Il a été dénoncé et ses menées n'ont pas duré longtemps. Et c'était le grand regret de sa vie, jamais avoir atteint Lhasa. Par contre, il a cartographié une immense chaîne de montagnes qui se trouve au nord de l'Himalaya, que peu de gens connaissent, s'appelle le Trans-Himalaya. C'est lui qui l'a appelé comme ça. Et vraiment, il a fait un travail qui fait encore référence aujourd'hui.
So the Chinese government in Nanking, I've undertaken a long journey to the interior of Asia and more specially to the great province of Xinjiang. We were attacked by bandits several times on in very close quarters, but nobody was hurt and nobody was lost on the journey. So the whole expedition came back in very good state of repair.
Har Sven Hedin. Han är full utav sedelundsvin, av studenternas punch, av docenternas gunst, av den rusande kungsmelodin. Hör med trissornas mångfald på skinnklädd barn, hur han talar om Gud och inhåller sig varm, tills det vitmössor stupar i dimma och dunst under bordet och spyr på sin arm. Här pratar Sven Hedin. Han är full utav minnenas vin, av kung Karl, Fänrik Stål och av Stenbocks kurir.
Alors contrairement à d'autres scientifiques comme Jules Léon Dutreuil de Reims qu'on retrouve dans votre ouvrage, qui lui va périr dans l'Amdo, tout à fait, Sven Hedin lui ne va pas trouver la mort en Asie, il va revenir, on l'a dit à plusieurs reprises, avec les honneurs, même si vers la fin de sa vie, sa relation trop étroite avec le pouvoir nazi vont le mettre au banc des honneurs de la communauté scientifique.
Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé depuis 40 ans que je m'intéresse au récit des explorateurs. C'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. C'est qu'ils sont très nombreux, les explorateurs, qui, sur la fin de leur vie, ont eu des tendances extrême droite ou fascisantes. Ça a été le cas pour Monvalot, ça a été le cas pour Hedin. Et je ne sais toujours pas l'expliquer. Alors que c'est des gens qui étaient à tuer à toi avec les indigènes, quel que soit l'endroit où ils étaient. On pourrait comparer aussi à des explorateurs africains. Et tous, je pense que ce sont des farouches individualistes qui croient à la réussite personnelle, à l'abnégation personnelle, et qui finissent par ne plus croire au social.
Louis-Marie Blanchard, au sujet de ses explorations au Tibet, et pour faire allusion, on vient d'en parler au régime nazi, il faut rappeler aussi cette quête délirante des tenants de la race aryenne qui ont vu dans le Tibet aussi le berceau de l'homme indo-européen. Alors une chose est sûre, le Tibet est, et cela est indéniable, le berceau des quatre grands fleuves sacrés de l'Asie, dont l'Indus et le Brahmapoutre, des lieux, sources de vie où tout est sacré, et ça, ce n'est pas Alexandra Davinéel qui dira le contraire.
On s'imagine généralement que le Tibet est un immense plateau entouré de montagnes comme d'une espèce de barrière tout autour de lui, mais pas du tout. Le Tibet n'est pas un immense plateau, il y a des plateaux qui sont très vastes au Tibet, mais le Tibet lui-même est un pays très montagneux. Quand on y voyage, on doit très souvent franchir des cols et redescendre de l'autre côté. On traversera peut-être un plateau ensuite, mais au bout du plateau, on trouvera une autre chaîne de montagnes. Et le Tibet est absolument montagneux. Alors, sur ces montagnes sortirent des ermites. Ils vivent là généralement dans des cavernes un peu aménagées, c'est-à-dire que devant l'entrée de la caverne, on bâtira un mur en pierre pour fermer du vent, et puis on y mettra peut-être une porte, et alors l'ermite s'installera là, et il vivra là pendant des années. Il y en a qui y vivent toute leur vie en se livrant à la méditation.
L'originalité de Alexandra, c'est qu'elle est bouddhiste elle-même et engagée dans la pratique, ce qui va lui ouvrir des portes qui lui seraient restées fermées si, comme d'autres, elle n'avait été qu'une scientifique, une universitaire pure, je dirais. Elle va vivre un peu plus de 2 ans dans un ermitage à très haute altitude au Sikkim et elle va rencontrer un lama qui va l'initier, effectivement, et elle va rester auprès de lui. Lui-même habite dans un ermitage un petit peu plus haut, le lama Gomchen. C'est une étape, oui, cruciale aussi, dans son existence. Et c'est parce qu'elle est engagée dans cette pratique que les portes vont s'ouvrir. Et c'est pour ça qu'elle, la seule, va pouvoir rencontrer par 2 fois le 13e Dalai Lama que personne d'autre, aucun érudit occidental en tout cas, n'avait pu rencontrer avant elle.
Alexandra Davinéel est assurément la plus célèbre des exploratrices. Près de 100 ans après son premier voyage au Tibet, elle continue d'inspirer de nombreux voyageurs. Elle est née en 1868 et elle sera la première occidentale à entrer à Lhasa en 1924. Mais au-delà de cet exploit, comme vient de le dire Nathalie Bazin, qui est conservateur en charge des collections d'art himalayen, au musée Guimet, musée national des arts asiatiques, qu'on avait rencontré à l'occasion d'un reportage sur Alexandra Davinéel, Alexandra, elle, au-delà de cet exploit, elle a fait bien plus. Elle était elle-même bouddhiste, en fait. Une érudite aussi et une passeuse.
Oui, alors là, on tombe complètement, après les expéditions scientifiques, on tombe sur un autre type de voyageur. Elle, c'est vraiment le voyage initiatique, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne se contentait pas de découvrir des terrains, de battre du terrain. Elle est allée en profondeur dans la culture tibétaine. Tout l'intéressait dans la culture tibétaine. Donc elle a appris le tibétain, elle a appris à lire le tibétain, à décrypter les textes sacrés. Elle s'est initiée auprès d'un certain nombre de grands maîtres. Et c'est ce qui fait qu'elle peut être qualifiée d'exploratrice. Parce qu'en aucun cas, c'est une exploratrice au sens géographique du terme. Le Tibet était déjà bien exploré avant qu'elle n'arrive là-bas.
Par c'est une
contre,
exploratrice
l'exploration
spirituelle.
Profondeur de la culture et de la religion tibétaine, ça, c'est vrai que ça a rarement été égalé.
Elle a quand même connu de folles aventures, parce qu'elle va partir dans son premier voyage en Asie, 14 ans.
Oui, alors en fait, elle a fait de très nombreux essais avant de réussir à atteindre Lhasa, et donc ça l'a obligée à faire un centre de pérégrination qu'elle n'aurait pas souhaité au départ. Elle aurait tout de suite voulu à la Mecque locale, Lhasa, mais malheureusement, ça ne lui était pas possible. Donc, elle a essayé, en passant des mois et des mois dans tel ou tel monastère, d'avoir suffisamment d'appui pour pouvoir continuer son voyage et enfin atteindre Lhasa. Ça n'a jamais été possible d'une manière régulière. Donc pour finir, elle s'est décidée à partir complètement au sud du Kham, dans la province du Yunnan. Je suis allé moi-même dans la zone du Kawakarpo, tout près de la frontière birmane. Et là, elle a commencé, pour noyer le poisson, par faire une kora, un pèlerinage autour de cette montagne sacrée. Et là, elle a déjoué les pièges qui l'attendaient, les postes de contrôle et tout. Elle est partie le long de la frontière sud du Tibet et elle a réussi, par ce moyen-là, à atteindre Lhasa incognito, déguisée en non-tibétaine. En plus, elle était avec un lama du Sikkim, son fils adoptif Yongden. Elle est passée pour une nonne un peu simplette qui évitait de parler quand même, parce qu'elle avait peur d'être vraiment découverte. Elle était enduite de suie pour avoir l'air bien crasseuse comme une vieille nonne, parce que les nonnes tibétaines, comme les Mongols, il y avait un peu un tabou sur l'eau. Donc, on ne se lavait pas tous les matins. Et donc, de cette manière-là, en étant déguisée, en faisant très attention, parce qu'elle ne parlait pas, mais elle comprenait tout ce qu'on disait autour d'elle, de très nombreuses fois, ils ont été obligés de décamper au dernier moment, parce qu'ils disaient « Oh, attention, ils viennent de dire des choses, je crois qu'ils pensent qu'on est des étrangers ». Et elle a vraiment eu beaucoup de chance, parce qu'elle aurait pu plusieurs fois être démasquée.
Mais qu'est-ce qui pousse comme ça d'aller à Lhasa? C'est parce que justement c'était interdit, fermé. C'est vrai que alors il y a eu plusieurs époques où la cité a été réellement interdite aux étrangers. Qu'est-ce qui c'est quoi? Plus c'était fermé,
oui,
plus ça attirait.
Le Tibet était quand même une contrée très xénophobe. Les Tibétains avaient conscience que beaucoup de gens voulaient se jeter sur leur contrée, que ce soit les Russes, les Anglais, les Chinois, surtout, on le répète. Et donc, ils essayaient d'évacuer tout le monde. En plus, Lhasa, c'est une ville sacrée. C'était là où il y avait le Dalai Lama. Le Dalai Lama avait déjà ses propres problèmes politiques dans les rangs politiques tibétains. C'était pas ça. Mais je rappelle quand même que sur 14 Dalai Lama, un bon nombre d'entre eux sont morts dans leur prime jeunesse et plus ou moins empoisonnés. Donc, si vous voulez, tout ça, ça crée un espèce de climat de suspicion. On avait toujours peur que les Chinois essaient d'empoisonner par intermédiaire le Dalai Lama ou le Panchen Lama, l'un roulant un peu plus pour les Chinois, l'autre roulant un peu plus longtemps pour les Mongols et après pour le Tibet lui-même. Mais il y avait un climat de suspicion. Permanent.
Mais pourquoi permanent. Vouloir aller là-bas?
Parce que c'est la ville sacrée, parce que c'est le Potala, parce qu'il y a le Dalai Lama. Je pense
le Potala, c'est le
ça.
Palais du Potala.
Le Potala, c'est cet immense palais créé par le 5e Dalai Lama. Et il faut vraiment se rappeler que le Dalai Lama, c'était un dieu vivant. Même si le 14e Dalai Lama, qui est actuellement encore en vie, a tout fait pour dire non, je ne suis pas un dieu vivant, je suis un simple moine. Mais pour les Tibétains, ça reste, et c'était un dieu vivant. Tout le monde rêvait d'atteindre la ville du dieu vivant.
Et alors cette quête mystique, vous l'avez dit, spirituelle d'Alexandra Davinel, Aujourd'hui, elle est très en vogue dans la tête de ceux qui s'élancent vers le Tibet. Il y a cette idée comme ça d'un pays au-delà, au-delà des nuages, au-delà des montagnes, au-delà de soi aussi.
Ça, je pense qu'on a tous dans la tête, au moins les voyageurs, mais tout le monde a l'idée d'un au-delà qui serait différent d'une autre. Et puis surtout, où il y aurait peut-être davantage de pureté. Et ce pays des neiges, avec son altitude, avec ses grandes montagnes, ça fait rêver, ça continue à faire rêver. Et c'est vrai, moi je dois dire qu'après 40 ans de Tibet, je suis allé pendant 10 années au Pérou, je suis allé dans plein d'endroits au monde, mais je n'ai jamais eu une telle impression de force se dégageant d'un pays qu'au Tibet. Le Tibet dégage une force intrinsèque, que ce soit la force du terrain, que ce soit la force des gens, que ce soit la force de ces monastères. Quand vous assistez à une prière matinale dans un monastère où il y a 1500, 2000 moines en prière, comme il y en a au Tibet oriental, encore aujourd'hui, je vous garantis que ça vous secoue la tête et les oreilles, hein, vraiment. Parce que la musique est extraordinaire, c'est une musique de fracas, avec leurs grandes trompes, leurs cymbales, etc. Ça vous frappe les oreilles. On n'a pas l'habitude de ça en Occident. Les prières sont rythmées par des musiques dignes d'un gros orage. Hein. Et puis après, ces psalmodies qui durent pendant des heures. Il y a des mois où on prie 24 heures sur 24 dans les grands monastères. Vous êtes pris dans un truc qui vous dépasse complètement.
Alors pour conclure, Louis-Marie Blanchard, parmi ces illustres explorateurs, on a parlé d'Alexandra, de Sven, d'Isao ou d'Evariste. On aurait pu aussi parler, vous l'avez cité, Przewalski. Il y a aussi Suzy Carson Ringyard, la missionnaire au destin tragique, Jacques Bacot, William Rocky, les gens passent. Pour conclure donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, ces explorateurs d'autrefois, sur ce qu'est devenu le Tibet aujourd'hui ?
Ils ont eu la chance, un peu comme je l'ai eu moi plus modestement dans les années 80, d'arriver dans un pays médiéval, j'insisterai jamais assez là-dessus, où la spiritualité dominait tout, quoi qu'on en dise. Même si la religion du petit peuple, c'était surtout avant tout pensée juste, action juste, moyen d'existence juste, c'était des préceptes très simples, hein. Ne pas voler son prochain, ne pas avoir de mauvaises pensées et gagner sa vie sans voler les autres. Voilà, ça c'était ça qu'on enseignait au petit peuple. Au-delà de ça, il y avait une élite tibétaine, je crois, qui a plongé dans l'introspection de l'esprit humain plus profondément que n'importe quel autre peuple. Et ça, c'est fascinant.
Vous êtes vous aussi fasciné. Vous êtes dans la lignée finalement de ces explorateurs d'hier.
Je suis pourtant pas un mystique, mais j'avoue que cette fascination à la fois pour ce monde médiéval qui s'est maintenu jusqu'au XXe siècle, et puis cette spiritualité qui aboutit à des choses sans limite, des gens qui s'enferment dans des cellules pendant des années, rien que pour méditer, pour faire le vide dans leur esprit. Enfin, on est à des années-lumière de notre monde moderne.
Surtout tout ça dans ces paysages de montagne, ces hauts plateaux, à 4000
mètres
d'altitude.
Alors en plus, les étendues, la neige, le vent... Ça fait un drôle de pays.
Le Tibet.
Le Tibet.
Louis-Marie Blanchard, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage écrit avec votre fille, Élise Blanchard, « L'exploration du Tibet », paru aux éditions Paulsen. Merci à l'équipe de la médiathèque d'Albertville et à l'équipe du Grand Bivouac, Céline Develay-Mazurel, Laura Larry. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à l'écoute de RFI et de nos podcasts, si loin, si proche.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr. Le débat.